Bonjour, on va continuer. On est Sanhedrin, Daf Tzadik Zayin Amud Aleph. On est au milieu du Hamoud et on parle ici de Ikvata de Meshicha, l'époque avant que Mashiach vient. Ikvata, c'est-à-dire les pas du talon de Mashiach, c'est-à-dire la dernière époque avant que Mashiach vient. Quelle est la situation de la génération? C'est pas ce qu'il dit. Les insensés, les voyous, les athées, les fauteurs, ils insultent les pas de Mashiach. Ils ne croient pas que Mashiach va venir. Alors, cette génération, avant que Mashiach vienne, elle a des caractéristiques. Alors, ces caractéristiques, on va continuer. On était ici au milieu. Vesar mera mishtolel. Le verset dit là-bas, Sar Meira Mishtolel. Sar veut dire quitter. Ra, méchant. Ceux qui quittent la méchanceté, Mishtolel. Il Mishtolel, il est fou. Ça veut dire quoi, il est fou? Quitter le mal, il est fou? Pas du tout. C'est un signe d'intelligence. L'homme qui ne fait pas des bêtises, c'est un signe d'intelligence. Il n'est pas fou. Alors, la Gemara interprète Amra de Berapshila. On a interprété chez Rapshila, dans l'Ishua de Rapshila. Kol Mishesar Mera. Chacun qui quitte le mal, Mishtolel à la briotte, il est fou aux yeux des gens. Les gens, ils pensent qu'il est fou. Qui sont les gens? Globalement, dans le monde, on ne veut pas craindre Dieu. On ne cherche pas de moralité. Donc, si un homme tzaddik, qui lui ne fait pas le mal, les gens y croient que c'est un fou. Aujourd'hui aussi, c'est comme ça, il y a un grand chutzpah. Les gens qui craignent Dieu et qui sont attachés aux mitzvot, à Torah, aux mitzvot, il y a des gens dans le monde qui les considèrent comme des fous. Ça, c'est un des grands drames qui existent dans le monde. Mais pour ceux qui quittent le mal et qui ne fait pas d'avirot, lui, il sait qui sont les fous, qui ne sont pas les fous. Les fous pensent que les gens normaux sont fous. Ça, c'est une règle. Le fou pense que les gens normaux sont fous. Et les gens normaux, ils savent qui est fou, qui n'est pas fou. Ceux qui craignent le péché et qui s'éloignent du péché, lui, c'est le normal. Et il y a des gens qui le prennent pour un fou, parce qu'eux sont fous. Amarava, Rava, il a dit, Merei Shava Mine. Au début, je me suis dit, Leke Kushtaba Alma, il n'y a plus de vérité dans le monde. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de vérité. Vada, il y a de la vérité, heureusement. Mais il n'y a pas un homme qui dit toujours la vérité. Comme ça, j'ai pensé que tout le monde ment, à un moment, tout le monde ment. Comme ça, je me suis imaginé. Il est tellement difficile de dire toute la vérité, que la vérité, toute la vie. Je me suis dit, tout le monde dit moi un peu. Amarli, il m'a raconté, Haomi Rabbanan. Une fois, un chacham m'a raconté. Le Rav Tabut Shmé, il s'appelait Rav Tabut. Le Amrala, il y en a qui racontent, Rav Tavioumi Shmé, il s'appelait Rav Tavioumi. Di'i have yahav le kol halal et alma. Même si on y avait proposé tout l'argent du monde, le have meshane bedibouré, il n'aurait pas changé la parole. Je le connaissais, c'était un homme, il disait toujours la vérité. Alors, lui m'a raconté une histoire. Zimnachada, un jour, Iklelahau Atra, je suis arrivé dans une ville. Le Kushta Shme, elle s'appelait Kushta. Kushta, en araméen, c'est dire vérité, émet. Le mot émet dans la Torah se traduit en araméen Kushta. Donc, la ville, elle s'appelait la ville vérité. Vlahave Meshane Bediburayu, jamais changé. La vérité, la parole de tous les gens de cette ville, ils étaient toujours honnêtes. Et les gens ne sont pas morts avant le Zman qui était fixé par le ciel. Ça veut dire, quand Dieu fixe un temps, normalement la grande majorité des gens, ils fixent à 100 ans, 110 ans, 115 ans. Mais les gens, malheureusement, ils meurent avant le temps, pour toutes sortes de raisons. Ils vivent pas bien pour leur santé, etc. Et à toutes sortes de raisons. Mais dans cette ville, les gens, ils sont tous devenus très âgés, ou la grande majorité en tout cas. Ceux que Dieu il a fixés au début de la vie, eh bien, ils ont tous vécu comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils disaient toujours la vérité. Dire la vérité, c'est une sgoula pour vivre longtemps. Mentir raccourcit la vie. Alors, ce rave, il a dit, je me suis marié avec une femme de cette ville. Et j'avais deux enfants d'elle. Yomachad un jour, sa femme elle était assise, elle se lavait la tête. Ataishibata, une voisine est venue, Tarfa Adasha, elle frappait à la porte et voulait parler avec sa femme. Savar, le mari, il pensait, là, vorachara, c'est pas derech eretz d'ouvrir la porte maintenant. Il avait peur que cette voisine, elle va rentrer. Amarla, alors le mari, il a dit, derrière la porte, à la voisine qui était devant, leitahacha, madame n'est pas présente. Shechivu leitartin benin. Après cette histoire, ses deux enfants sont morts. Ato inchedaatra, les hommes de la ville sont venus chez lui. La camée devant lui, Amroulé, ils ont dit, Maïhaï, comment c'est possible que deux enfants ils sont morts chez vous? Chez nous, les gens, ils ne meurent pas jeunes. Qu'est-ce qu'il se passe? Amarle, il a dit, bon, je raconte l'histoire. J'avais fait un mensonge. J'avais dit que sa femme n'est pas à la maison. En vérité, elle était à la maison, mais il a dit parce qu'il ne voulait pas que la voisine rentre. Amroulei, les gens de la ville, ils ont dit à Seraf, on vous supplie, sortez s'il vous plaît de notre ville. On ne veut plus que vous habitez chez nous. Il ne faut pas que vous provoquiez la mort, ces gens-là. Ça fait deux fois que le Malacham avait-il a fait un passage dans cette ville. Si vous continuez à rester ici, le Malacham avait risque de s'habituer de venir dans la ville. Alors, votre place n'est pas chez nous. Vous dites un mensonge, vous quittez. Cette histoire de Chora, elle est un peu pêlée. Il raconte cette histoire à Rava. Rava, il dit, au début, je croyais qu'il n'existait pas des gens qui disent toujours la vérité. Et après, il y a un Chacham, Rav Tabout. Et lui, c'était un Rav que même si on lui proposait tout l'argent du monde, il n'aurait pas changé sa parole. Pourquoi Rava? Il a raconté ses paroles. Pourquoi Rava, il a dit, cet homme n'aurait jamais menti. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il raconte une histoire extraordinaire. Donc Rava, il se dit, peut-être ce Rav, il m'a raconté Balivernes. Il me raconte, il se met avec une femme de cette ville Kushta, et là, les gens mouraient pas à cause de cette histoire de mensonge. Il y a deux enfants, ils sont morts. Rava, il se dit, peut-être cette histoire, elle ne s'est pas passée comme ça. Rava dit, c'est pas possible que ce Rav me raconte des histoires à dormir debout. Étant donné que je connaissais ce Rav, qui n'a jamais été méchant ni bédibourg, qui n'a jamais dit un mensonge. Même si on lui propose mais 1 million, 1 milliard, il va pas changer la parole. Alors, si Rava connaissait ce Rav, qui ne change jamais la parole, alors il n'avait même pas besoin d'entendre cette histoire. Rava, au début, lui dit, je croyais qu'il n'existait pas la vérité. Je ne croyais pas qu'il existe un homme qui dit toujours la vérité. Et je rencontrais un Rav qui lui disait toujours la vérité. Donc il existait, oui. Ah, pourquoi Rav a dit, je croyais que personne dit la vérité. Voilà, il connaissait Rav Tabout. Donc il faut dire qu'en vérité, l'histoire commence à Verlon. D'abord, ce Rav, il a raconté cette histoire. Et selon cette histoire, Rava, il a dit, cette histoire est vraie, elle est formidable. Donc, il y a une ville comme Kushta où les gens disent toujours la vérité. Alors, je suis heureux de constater. Moi, je croyais que tout le monde ment, mais je constate qu'il y a une ville où les gens ils disent tous la vérité. Alors, je suis content. Après, il s'est dit, et peut-être cette histoire, elle est fausse. Peut-être ce Rava, il me raconte une histoire, pas la vérité. En vérité, cette ville n'existait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rava? Il est allé surveiller ce Rav. Il a vu que ce Rav, ben, il dit toujours la vérité. Et il a vu plein de fois que les gens, ils ont proposé d'argent à ce Rav pour qu'il dise un mensonge. Et il n'est jamais tombé dans le panneau. Pourquoi, ben, il n'est jamais tombé dans le panneau? parce qu'il a appris une bonne leçon de cette histoire. Quand il avait perdu ses deux enfants, les gens de Kushta, ils ont dit, chez nous, on ne ment pas. Ça a tellement marqué ce Rav, il a pris sur lui de plus jamais mentir. Et Rava, il a constaté que c'était vrai. Il a vu que cet homme-là, il a abandonné tout l'argent du monde afin de ne pas dire un mensonge. Alors donc, Rava, il a dit, donc, il existe huit des gens bien. Tanya Rabbe Nohoraï Omer. Rabbe Nohoraï, il a dit, Dor Sheben David Ba, la génération Ne'arim, les jeunes, Yalbinu Pnei Zekenim. Ne'arim, Yalbinu Pnei Zekenim. Ne'arim, les jeunes, Yalbino, ils vont rendre blanche. Narim yalbino pnei zekenim. Les jeunes, ils vont blanchir la face des personnes âgées. C'est-à-dire, ils vont leur faire honte. Les jeunes feront honte aux vieux. Comment ils font honte aux vieux? Ils insultent les vieux. Ils ne sont pas respectueux vis-à-vis des vieux. Ça veut dire que c'est une catastrophe. Ça veut dire des jeunes ne respectent pas les vieux. Ça, c'est le pshat pashut. Mais on peut dire aussi, peut-être pile le contraire. Les jeunes vont faire honte aux vieux parce que les jeunes sont encore mieux que les vieux. Les vieux n'étaient pas bien. Et les jeunes, ils sont tellement tzadikim que les vieux, ils ont honte, se comparant aux jeunes. Tellement ils voient que les jeunes sont tzadikim. Mais ce n'est pas le pshat, c'est un drash. Est une allusion. Le pshat pashut, que les jeunes ils vont faire honte aux vieux. Uzkenim ya'amdu lifnei na'arim. Les vieux vont se lever devant les jeunes. Ça veut dire quoi? Les vieux ils vont se lever devant les jeunes pour leur donner de l'honneur. Depuis quand une personne âgée s'élève devant un jeune? Rachid dit à cause de la chutzpah, l'insolence. Les jeunes sont tellement insolents, ils ont tellement manque de respect. Ils exigent aux personnes âgées qu'eux, ils doivent se lever devant eux. C'est la top du top de la chutzpah. Mais on peut dire aussi, le contraire. Les vieux vont se lever devant les jeunes parce que les jeunes vont être tellement chacham et tellement tzaddik, tellement merveilleux, que les vieux ils vont se lever devant eux. On peut dire comme ça. Ubat kama be'ima, la fille s'élève contre sa mère. Ça veut dire quoi? Elle fera honte à sa mère. La fille fait honte à sa mère. Tu es une vieille, tu comprends rien. La fille méprisera sa mère. On peut dire aussi le contraire. Elle s'élève contre sa mère que si la mère, elle n'est pas bien, la fille dit non, moi je veux respecter la Torah. Et s'élève contre la mère qui fait pas la Torah. On peut dire le contraire toujours. La belle-fille s'élève contre sa belle-mère. Alors, Pshat Pashut aussi, elle fait honte à sa belle-mère. Elle parle avec chutzpah contre sa belle-mère. On peut dire aussi le contraire. Upnei hador ke pnei hakelef. La face de la génération est comme la face du chien. On avait déjà expliqué que même les chefs de la génération, ils se comportent comme des chiens. On peut dire aussi le contraire. La génération est bien, les chefs sont pas bien. En vérité, la génération, elle est meilleure. Parce qu'il est que même les chefs sont des chiens, alors à plus forte raison le reste. Veina ben mitbayesh me'aviv. Et le fils n'a pas honte devant le père. C'est-à-dire, le fils ne respecte plus le père, il fait des averot. Normalement, un fils, si Hachem il fait un avera, mais il ne veut pas le faire devant le père, il ne veut pas que le père il est au courant. Mais avant Mashiach, les jeunes ne respectent plus rien des vieux, et ils font des averot sans gêne. Ils ne se gênent pas devant les parents. Et on peut dire aussi le contraire. Le père se comporte pas selon la Torah et le fils il fait la Torah et il n'a pas du tout honte devant le père. Même si le père il dit je suis pas d'accord que tu fais la Torah, eh ben le fils il dit je fais ce que je fais, moi je vais vers la Torah. Les deux pshatim ne sont pas contradictoires. Parce qu'il y a peut-être des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Il y a des gens que les parents sont bien, les enfants sont des voyous. Et à le contraire, les parents, ils sont des voyous, les enfants sont mieux. Tanya, Rabbi Nechemia Omer. Dor Sheben David ba, la génération que le fils de David vient, à Azout, Bo Ha Azout Tarbe. L'insolence, Tarbe, elle va se multiplier. as, c'est-à-dire sans gêne. Des gens sans gêne. Ils font n'importe quoi, des choses moches, des choses odieuses, sans gêner, sans se gêner. C'est une spécialité, la génération avant Mashiach. Comment ça se fait que c'est comme ça? Quel est le pshat? Pourquoi c'est comme ça? Dans chaque génération, il y avait un Derech Eretz. Depuis Adam Rishon, depuis la Torah a été donnée, les prophètes, il y a un respect. Et avant Mashiach, il y a un délaissement, il y a une génération d'insolence, pile avant que Mashiach vienne. C'est quoi la logique? Parce que les Yetzirah, ils sentent que ces jours sont comptés. Bientôt vient Mashiach. Et lui, il sera dépaysé, il doit rendre ses armes. L'Yetzirah ne peut plus. Il ne peut plus conduire le monde. Donc, quand un homme, il est en plein guerre et il sent que la fin finit, alors il lance toutes ses forces dans la bataille. Il veut encore essayer de survivre un peu. Donc, avant que Mashiach vienne, le Yetzara, il jette toutes ses armes dans la bataille. Avec chutzpah, il essaye de casser toute la moralité, des résidus de moralité qui restent. Il essaye de tout casser. Azut tarbe. Donc, l'insolence va se multiplier. C'est quoi Hayoker? Alors, soit Yoker, c'est Kavod, l'honneur, Yavet, va être tordu. Il n'y aura plus d'honneur, les gens ne se respectent pas. Un autre pshat, Yoker, les gens importants, Yavet, vont aussi être tordus. Même les gens importants, ils sont tordus. La vigne donnera son fruit. Ça veut dire quoi? Il y aura une abondance. La vigne, c'est un fruit. C'est le symbole de la richesse. Le vin, c'est le surplus. On n'a pas besoin de vin pour vivre. Mais c'est déjà quand on vit bien, on vit super bien, on a du vin. Le vin, il y aura beaucoup de vin. Il y aura une abondance dans le monde. Dans la nourriture. Mais le vin, il est quand même cher. Malgré qu'il y a une abondance de nourriture, le vin, il sera cher. Pourquoi le vin, il sera cher? Un pshat de Rashi, parce qu'il n'y a pas de bracha. Il y aura beaucoup de nourriture, mais il n'y a pas de bracha dans la nature, la nourriture. Ça veut dire, des fois, avec peu de nourriture, et ça suffit pour beaucoup. Et des fois, il y a beaucoup de nourriture, mais les gens, ils restent à leur faim. Et l'autre pshat, le vin, il est cher parce que tout le monde court vers le vin. Le vin, c'est le plaisir. Il y a beaucoup de vin dans le monde, mais tout le monde veut boire du vin. Donc, le prix monte. Et tous les gouvernements se transformeront en athéisme. Ils sont tous des athées. C'est-à-dire, autrefois, avant la génération de Mashiach, les rois du monde, ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu par la Bible, par autre chose, on croit en Dieu. Mais avant Mashiach, eh ben, les gouvernements, ils sont tous athées. Un après l'autre, on devient athée. Ils vont se transformer les minutes. Ve'en tochacha. Et impossible à faire de réprimande. Ça n'existait plus la réprimande. Un homme, il dit à l'autre de réprimande, on ne se comporte pas comme ça. L'autre, il rigole. Il rigole. On ne peut plus faire de tochacha. Ça ne sert à rien. Les gens deviennent insensibles à la tochacha, aux réprimandes. Ou peut-être le pshat, il n'y a pas de tochacha parce que personne ose de faire tochacha. Parce qu'il a peur que ça va retomber sur lui. Parce que lui aussi, il n'est pas en ordre. Quand on fait une réprimande à l'autre, c'est bien que ceux qui font la tochacha, il est nickel. Il n'a pas à se reprocher ce qu'il reproche à l'autre. Mais avant Mashiach, eh bien, tout le monde, ce que tu reproches à l'autre, on peut te reprocher à toi aussi. Alors les gens, ils se taisent. Alors chacun fait ce qu'il veut. Mais ça, il est le Rabbi Yitzhak. C'est une preuve pour Rabbi Yitzhak. Dans Rabbi Yitzhak, il a dit, En ben David va, le fils de David ne vient pas. Hachiti taper kol ha-malchut le minut. Jusqu'à ce que tous les gouvernements sont devenus athées. Alors, ça veut dire quoi? Nous devons lutter pour que le gouvernement soit athée. Au contraire, nous devons lutter que les gouvernements, ils sont tzadikim. Mais ici, on me dit, les choses vont échapper. Tu peux faire ce que tu veux, mais il y a un chemin qui va amener à l'athéisme. Mais nous, de notre côté, nous devons lutter le contraire. On ne doit pas suivre le mouvement. En vérité, qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? L'essor de la Gemara, il est comme ça. La Gemara nous dit que Mashiach vient soit que Kulo Zakai, soit Kulo Chayav. Mashiach vient soit que tout le monde il est fautif, soit tout le monde il est pas fautif. C'est-à-dire, ou tout le monde tzaddik, ou tout le monde rachat. Si tout le monde tzaddik, alors c'est super bien. Si tout le monde il est rachat, donc il viendra parce qu'il faut sauver le monde. Bon, tout le monde, ça n'existe pas tout le monde tzaddik. Il n'existait pas tout le monde rachat. Badaï. Alors il dit tous tzadikim, tous rachat. Ça n'existait pas tous tzadik. Ouh, tu rêves, tous tzadik. Et tous rachat. Badaï, ça n'existait pas tous rachat. Il y a toujours des tzadikim, tous rachim. Comment veut dire la majorité? Le Mashiach, eh bien, soit que la majorité sont tzadikim, soit que la majorité sont rachaim. Quand on dit, j'ai dit, t'as perdu kol ha-malchut leminut. Aussi, ça ne veut pas dire tous. T'inquiète pas tous. Il y a toujours des tzadikim, il ne faut pas. Mais presque tous. Amarava, Rava il dit Maïkra, où il y a une allusion dans la Torah que si tout le monde il est athée, alors Mashiach revient. Où tu as une allusion? Quel est le pasuk? Kulo hafach lavan tahorhu. Tout il se transformait en blanc, alors ça rend pur. C'est-à-dire un homme lépreux, il a une tache blanche sur sa peau. Alors on dit, si la tache il a une certaine surface, alors, il est impur. Et si la tâche grandit, eh ben, il reste impur. Il grandit, 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 jusqu'à ce que la tâche couvre tout le corps. Dès que la tâche couvre tout le corps, eh ben, il est tahor. Pourquoi il est tahor? Tout est blanc, tout est impur, ça devient pur. C'est un paradoxe. C'est bizarre. Comment? Plus que ça devient impur, plus c'est impur. Comment? Quand on arrive au top d'impur, on devient pur. Comment ça fonctionne? Et ici, la Gemara fait de cette règle une règle vis-à-vis de ce que la Gemara dit avant, que les gouvernements sont athées, et quand tout le monde est athée, alors Mashiach revient. Comment ça fonctionne? Mais le pshat, il est comme ça. Quand il y a un parti athée, un parti ma'amine, alors, ce qui est athée, il a sur quoi regarder. Il voit qu'il y a des tzadikim. Alors, donc, il peut s'inspirer. S'il ne s'inspire pas, c'est un péché. Mais qu'est-ce qui se passe si tout le monde il est athée? On n'a plus de référence. Quand il n'y a plus de référence, les gens qui fautent, ils peuvent même pas savoir qu'ils fautent. Comment peut-il savoir qu'ils fautent? Il est comme tout le monde. On est tous la même. Alors pourquoi je serais différemment? Et donc là, Dieu, c'est plus facile à amener Mashiach. Parce que les gens, ils rentrent dans un contexte de Shogeg. Tout le monde devient Shogeg, on a perdu la référence. On ne sait plus à qui se référer parce que tout le monde, il est tordu. Quand être tordu devient la norme normale, alors Dieu, comme si on peut dire, il est moins fâché. Où le pshat il est? C'est tellement grave, c'est tellement catastrophique qu'il n'y a pas de solution, que Hachem il intervient et l'on va. C'est irrécupérable, les gens ne peuvent plus s'en sortir. Donc, pas tout le monde dit les blancs, donc pas tout le monde dit les rachats. Donc, il y a une chance que les tzadikim, ils vont sauver le monde. Mais quand quoi? Quand il n'y a plus de solution, alors, Hachem dit, bon, d'accord, alors moi j'interviens. Et bien sûr, ce n'est pas le seul scénario que Mashiach peut venir. Quand on dit Mashiach ne vient pas que si c'est comme ça, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. La Gemara veut simplement dire, ça c'est le cas extrême. Ne crois pas que si tout est tordu, alors va, sûr que Mashiach ne vient pas. Non, 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 non. Chez Akadosh il y a un programme que quand tout est tordu et c'est irrécupérable, maintenant jamais Mashiach. C'est la dernière formule qu'Hachem il a. Vadaï, que si encore des tzadikim, c'est encore mieux. Et plus qu'il y a des tzadikim, et plus de kedusha, plus qu'il y a de Torah, plus qu'il y a des mitzvot, plus facile Mashiach vient, comme on verra pour plus tard dans la Gemara. La Gemara prend ici l'extrême de l'extrême. Si tu crois que si la génération elle est tellement bas que tout le monde est tordu, alors là, c'est fini, la Mashiach ne vient pas. Eh bien oui, il y a le programme de l'extrême que justement parce que tout est tordu. Donc, il n'y a plus de solution. Eux, ils sont shogeg et ils peuvent plus remonter seuls de leur force. Alors, il intervient, la Mashiach, et comme ça, ils pourront remonter. Rabban, ils ont enseigné. Kiyadin Hashem Amo. Dieu va défendre son peuple. La passo qu'il dit, il y a un moment que Dieu il va défendre son peuple. Va'alava David Necham. Il regrettera que ses serviteurs ont du mal. C'est-à-dire, il va défendre les Juifs, les Tzadikim. Kirek et Azlatiat, quand tu verras la faiblesse de la main, VFS, Atsur Va'azouv, il n'y a plus rien. Il soutient les Juifs. Il n'y a plus rien qui leur aide. Alors Dieu, il intervient, il va les défendre. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire? Ben David Bach, Yarbu Hamasorot. Le Mashiach ne vient que quand il y aura beaucoup de Masorot. Masorot, c'est Moser, un traître. C'est quoi un traître? Un juif qui va chez les Goyim pour parler mal des Juifs afin que les Goyim ils font du mal aux Juifs. Ça, c'est un traître. Donc, pourquoi il y a des traîtres? Normalement, les traîtres, ça existait, des traîtres chez les Juifs, parce qu'ils sont bien payés. Les goyim, ils aiment de donner de l'argent à quelqu'un qui raconte la shonara sur son peuple. Ou on donne de l'argent, on lui donne de l'honneur, on lui donne une place. Ça c'est comme aujourd'hui, il y a des espions. Deux pays qui sont en guerre. On envoie des espions. Comment on fait un espion? Il faut devenir copain avec un de l'autre peuple pour qu'il me dévoile les secrets, les faiblesses du pays. Comme Yosef, il a accusé ses frères. Vous êtes des espions, Maraglimatem. Vous êtes venus pour voir la faiblesse du pays d'Égypte parce qu'ils voulaient l'envahir. Donc ça, c'est l'espionnage. On cherche quelqu'un qui, pour de l'argent, pour de l'honneur, ou pour certains avantages, il est prêt à vendre son peuple aux ennemis. Et ça, il existe des Juifs pour se bien faire voir, soit qu'ils ont avantage, une place dans la politique ou l'argent, soit on leur donne de l'honneur, soit que les goyim ils le prennent pour un intelligent. Si les goyim ils insultent les Juifs ou la Torah des mitzvot, alors ce Juif, il veut qu'il ne sera pas insulté. Il dit à goyim, voilà, je vous raconte la shanara sur les Juifs, je ne suis pas avec eux, je suis plutôt avec vous. Parce qu'il cherche que les gens le considèrent comme un type bien. Ça, c'est un Moser. Eh bien, Mashiach, à l'époque, avant Mashiach qui vient, il y aura beaucoup de Masorot. Il y aura beaucoup de Masorot comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vendent leur peuple pour un certain avantage. Et Moser, c'est très, très mal vu dans la Gemara. Très, très mal vu. Pour ça, ils ont instauré la Malchinim, les Malchinim. Un Malchin, ça vient du langage Lachon, la langue. Malchin. Il parle avec sa parole pour dire mal sur les Juifs, et c'est grave. Hamasorot, il y aura beaucoup de gens qui vont parler mal. Davar, donc ça c'est Pshat qui a des Neshemamot, Dieu interviendra pour défendre le peuple, qui irait quand il verra qu'il y a Azlatiad, qui a une immense faiblesse. Mais Efesatsurbazouf, plus personne les soutient. Au contraire, les gens, ils vont les autres, ils vont leurs frères. Davar, autre explication. Atitmat ou Talmidim, jusqu'à que les élèves qui étudient la Torah ils vont diminuer. Parce que non, les élèves qui étudient, c'est eux qui renforcent la Torah, ils renforcent le peuple juif. Et bien ça, il y aura une diminution. D'avoir une autre explication, Achetich le Peruta Menakis, jusqu'à la dernière centime n'est plus dans le porte-monnaie. Ça veut dire qu'il y aura une grande pauvreté. Ils seront pauvres. Et là, Mashiach, il intervient. Alors, est-ce qu'il faut jeter pour ça l'argent? Non, pas du tout. Il faut voir que les Juifs sont riches. Mais c'est une espèce de dire, il y a un moment où il n'y aura plus d'argent dans la poche. Bon, cette histoire probablement a déjà passé. Il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant d'autres moments, il y avait déjà des moments où les Juifs, ils n'avaient pas un centime. Donc, tout ce mal, on espère qu'on a déjà passé. Dites-moi, toi, Talmidim, mais les élèves, ils ont diminué. On espère que tout ça s'est déjà passé. Il y avait déjà un moment où il y avait très peu de gens, Talmidim, à cause des persécutions, il y avait peu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a déjà dépassé, on est beaucoup plus de Talmidim. Oh, je dis, tout le monde va étudier. Bon, d'abord, Acher. Jusqu'ils vont se désespérer de la délivrance. Il y a un moment où les gens se désespèrent. Ils disent, ça y est, la délivrance ne vient plus. C'est à ce moment-là que la délivrance vient. Je n'ai marre. Mais Ephes, Atsurve, Azouf. Il n'y aura plus aucun espoir. Kevéachol, En Somech, Vozer, l'Israël. Ils s'imaginent qu'il n'y a plus personne qui peut aider au peuple juif. Kehad, Rabbi Zeira. Ça nous inspire l'histoire de Rabbi Zeira. Kehavemashkach, Rabbanan. Quand ils trouvaient des Chachamim, des Maaskebe, qui s'occupaient au sujet de Mashiach, des fois, il a vu des Bachourim, des Avrechim, des Kolel, des Chachamim. Il discute sur le sujet de Mashiach. Il va venir quand Mashiach? Amar Lehu, il leur a dit, Amar Lehu, quand il a vu des Chachamim qui s'occupaient de Mashiach, Amar Lehu, il leur a dit, Bematute, je vous supplie, Baïnemanaïch, je vous demande, Loterachkuha, n'éloignez pas Mashiach. Quand les Chachamim parlaient trop de la venue de Mashiach, Rabbi Zeira a dit, arrêtez déjà de parler de lui, ou pas l'éloigner. Ça veut dire quoi? Et Tanina, nous avons une braïta. Gimel, Ba'in, Be'esechadaat. Trois, rencontre l'homme, il fait justement quand il n'y pense pas. Alors quoi? Mashiach. Justement, Mashiach, il vient quand on ne pense pas du tout à lui. Metzia, on trouve une trouvaille. Quand tu vas marcher dans la rue pour chercher une trouvaille, cherche un porte-monnaie perdu, tu ne trouves pas. Mais ce qu'on trouve, c'est toujours pile quand on n'a pas cherché. Tu marches, hop, un porte-monnaie, aïe, t'as 1 000 € dedans, t'es content. Chercher, ça ne sert à rien. Il faut que ça vienne tout seul. Mais à Crabe et le scorpion, c'est là où tu ne penses pas qu'il y a un scorpion, là on risque de se piquer. Quel est le sens de la Gemara? Alors le scorpion, c'est-à-dire quoi le scorpion? Il vient quand tu n'y penses pas. Et quand j'y pense, lui, il vient pas. Pourquoi? Comme le scorpion, il sait si je pense à lui ou je pense pas à lui. Ça, il est comme ça. Quand un homme, il voit, il marche dans un endroit où il y a beaucoup de scorpions, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il fait attention. Il regarde par terre. Voilà, on regarde où on met les pieds. Donc, comme je sais qu'il y a un danger de scorpion, donc je fais attention. Comme je fais attention, je marche pas sur le pied du scorpion. Donc, je le provoque pas. Donc, en principe, lui, il n'attaque non plus. Mais quand l'homme, il pense, ici, il n'y a pas de scorpion, non, ça, c'est une région, il n'y a pas de scorpion. Donc, il ne regarde pas, et il marche. Et là, justement, il y a un danger. Tu ne regardes pas où tu mets le pied. Tu mets le pied à un endroit pour provoquer la colère du scorpion. Alors là, il risque de piquer. La métia, c'est-à-dire quoi la métia? Un homme qui cherche une métia, justement, il ne trouve pas. Et pourquoi il ne trouve pas? Parce que si tu cherches, tu marches par terre, tu cherches, les autres personnes, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Mais pourquoi il regarde? Il regarde, il regarde, il regarde. Les autres personnes ici disent, ah bon, il a perdu ici une pièce en or, c'est pour ça qu'il cherche. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Ben, moi, je vais chercher. Si lui, il cherche son porte-monnaie, tout le monde se met à chercher. Et alors, s'il y en a 1 000 qui cherchent, il y en a 999% des chances que toi, tu ne trouves pas, c'est quelqu'un d'autre qui trouve. Donc, justement, tu ne trouves pas. Mais si tu marches dans la rue et tu cherches pas, tu as une chance de trouver. Mais si tu cherches, tu vas provoquer que les autres cherchent. Maintenant, la même chose pour Mashiach. Si tout le monde parle de Mashiach, justement, Mashiach risque de dire, vous parlez trop de moi, eh bien, je viens pas. Quel est le pshat? Quel est le pshat? Et pourquoi il viendrait pas? Parce que vous êtes tellement, tellement sûr que je viens, hein? Alors peut-être vous n'allez pas faire teshuva. Ça y est, ma chère, eh bien, c'est bon, c'est dans la poche. Donc on va oublier de faire teshuva, mitzvah, zim tovim. Ça y est, on a déjà ma chère dans la poche. Alors justement quoi? Ma chère dit, alors je viens pas. Mais quand les gens y pensent, oh là là, ma chère, il est loin. Et alors, il faut faire beaucoup de Torah mitzvot. Alors là, justement, il peut venir. Alors, on raconte sur le Chafetz Chaim. Il parlait beaucoup de Mashiach, bientôt Mashiach il va venir. On dit que quelqu'un est venu chez le Mashiach, chez le Chafetz Chaim. Il dit, comment vous parlez tellement beaucoup de Mashiach? Mais voilà, Rav Zeira, quand il a vu des Chachamim parler de Mashiach, il a dit, ne l'éloignez pas. arrêtez de parler de lui, parce que sinon, justement, il ne va pas venir. Alors, quelqu'un dit, vous parlez, alors justement, il risque de ne pas venir. Alors, Ravetzraim lui dit, non, il n'y a pas ce risque. Parce qu'après tout ce que je dis, les gens, ils oublient quand même Mashiach. N'ayez pas peur. Avec tout ce que je dis, les gens, ils n'ont pas Mashiach dans la tête. Donc, on est dans un grand Hesechadat. Il est tellement éloigné de nous que tu peux parler, et les gens, ils n'y pensent pas du tout encore. Donc, ce n'est pas grave. Il peut encore venir avec tout ce que je parle. Amar Rav Katina, il a dit, Shit Alfeshnei Ave Alma, 6 000 ans, le monde est laid, Mechat et 1 millénaire, Charouf détruit. C'est-à-dire le monde, le programme du monde, c'est pour 6 000 ans, et le 7e millénaire, Charouf détruit. C'est-à-dire quoi, Charouf? Charouf, ça ne veut pas dire détruit, c'est-à-dire merveilleusement constitué. Ça veut dire les règles de ce monde, comme elles sont maintenant, ils sont arrêtés. Karov, ça veut dire tout il va fonctionner tellement bien, c'est le jour de Shabbat, qu'on n'a pas besoin de faire les efforts qu'on fait maintenant. On peut arrêter de faire les efforts pendant l'époque de Mashiach, tout il sera facile. On ne sera pas obligé de se casser la tête. On n'a pas besoin de se perdre du temps. On n'a pas besoin de faire fonctionner l'économie et tout sera beaucoup plus facile. Comme le texte dit, Benizgavashem Dieu, il va être sur le trône seul ce jour-là. Dieu, il va faire marcher le monde. Abaye Amar Treicharouv. Abaye, il a dit, c'est pendant 2 000 ans. C'est pas 2 000 ans, c'est pendant 2 000 ans. Tenema, c'est marqué, Yachayeinu Miyamayim. Il va nous faire vivre 2 jours. Et le troisième jour, on va installer. Ça, c'est donc Triatamitim, l'Olam éternel. Donc, d'abord, un, il dit 6 000 ans, le monde normal comme aujourd'hui. Le 7e millénaire, ça s'arrête, le monde comme aujourd'hui. Ce sera l'époque de Mashiach. C'est Dieu qui lui conduira tout, 1 000 ans. Et le 8e millénaire, ça sera l'Olam du Kulotov. Le monde éternel, Priatamitim éternel, etc. Et d'après l'autre mandamar, l'époque de Mashiach, ça ne va pas durer 1 000 ans, ça va durer 2 000 ans. Yachayeinu, nous allons faire vivre au milieu de 2 jours. Et Yom Shlishi, le troisième, c'est-à-dire le 9e millénaire, Yekimeinu, il va nous mettre debout, Priatamitim, Benichiel, et Fanaf, on vivra devant lui. Là, il y a un changement radical. Après un changement radical, Priatamitim, c'est autre chose. Tanya Kavati de Rav Katina. On a un braïta qui dit comme Rav Katina. Keshem Shashvit Meshametet Shana Achat Lezain Shanim. Comme la Shemitah Meshametet, elle fait arrêter le comportement normal pendant une année, c'est-à-dire 6 ans, on travaille, on sème, on laboure, on moissonne, on fait rentrer la nourriture. Mais l'année de Shemitah, on n'est pas obligé de labourer, ça s'arrête. Le travail fatigant s'arrête. De la même façon que la Shemitah fait arrêter les travaux des gens pendant 1 an, comme ça le monde va arrêter, on va arrêter de travailler pendant 1 000 ans sur 7 000 ans. 6 000 ans, on doit travailler, le 7e millénaire, non, comme les 6 jours de la semaine, 6 jours de travail, ou bien et le jour de Shema, tu ne travailles pas, tu la kiffes. Et le texte dit Mizmor Shir, le Yom HaShabbat. Mizmor, David Emelech, ce n'est pas David Emelech, c'est Adam Arishon déjà qui l'a chanté ça. Mizmor, un chanson, Shir, une mélodie, le Yom HaShabbat. Pour le jour du Shabbat, David Emelech, il a chanté ça, Adam Arishon, il a chanté ça pour le jour du Shabbat. Yom Shekulo Shabbat, pour le jour qui est entièrement Shabbat, où il se repose. Le Omer, c'est-à-dire quoi? Un jour? Non, c'est 1 000 ans. Omer, parce que le verset dit, Ki elef shanim be'enecha, yom etmol. Car 1 000 ans dans tes yeux, à tes yeux, c'est comme un jour qui est passé. Ça veut dire ce que les humains appellent 1 000 ans, pour HaKadosh il appelle un jour. Donc le 7e millénaire, c'est le 7e jour de Dieu. Il y a avant qui passe. Tana de Bei Eliyahu. On a vu une braïta dans la yeshiva de Eliyahu. Sheshet alafim shana ave alma. 6000 ans, c'est pour le monde. Le monde a été créé d'abord pour 6000 ans. Shnei alafim tohu. 2000 ans, les premiers 2000 ans tohu, le vide. C'est-à-dire quoi le vide? Le vide du peuple juif, le vide de Torah, le vide des mitzvot. C'est depuis quoi? Depuis que Adam Arishon il est né, jusqu'à la naissance d'Abraham Avinu. Avram Avinu est né en 1948 depuis Briat HaOlam. Il est né Abraham Avinu. Après, il avait 48 ans, donc ça fait 1996. Et l'année 1996, Abraham Avinu, il a terminé toute sa thèse de monothéisme et il a commencé à convertir les gens. Donc, 1996, ça veut dire la fin de 2000 ans. On a terminé les 2000 ans. Shnei alpaim tohu, shnei alafim Torah. Après, il y a 2000 ans, Torah. C'est de quoi 2000 Torah? À partir d'Abraham Avinu, lui a commencé à travailler. Il a commencé à appliquer les 613 mitzvot personnellement. Après, les Juifs sont sortis d'Égypte. Ils ont reçu la Torah, ils ont entraîné en Israël. Il y avait le premier ménage, deuxième Beth Mikdash. Jusqu'à la destruction du deuxième Beth Mikdash, ça a été quand? Ça a été l'année 3828. L'année 3828 de Briat HaOlam, il y avait la destruction du deuxième Beth Mikdash. Alors, il manque combien d'années jusqu'à la terminaison des 4000 ans? 4000 moins 3828, ça veut dire qu'il manque 172 années. Donc, le Chorban du Beth Amikdash était 172 années avant la fin des 4000 ans. Donc, il faut calculer encore 172 ans après le Chorban. Ça fait encore partie des 2000 années de Torah. C'était la première année, les premières époques, jusqu'à la Mishnah. Normalement, Rabbi, il a fini la Mishnah à peu près à cette époque. Les premiers Tanaïm, Rabbi Lézer, Rabbi Shua, etc. La première génération, Rabbi Akiva, jusqu'à Rabbi. Et après, c'était le fini 4000 années Torah. Né à la fin, il monte à Mashiach. Maintenant, il arrive 2000 années que Mashiach peut venir, que Mesugal peut venir. Avant, il n'était pas. Avant, c'était pas le moment. Maintenant, c'est le moment. Le galoute a commencé, ils ont subi un peu de galoute, maintenant ma chérie peut venir. Il aurait pu venir au début du cinquième millénaire. Ubavonotenu, mais à cause de nos péchés, Sherabu, et on a fait beaucoup de péchés, Yatsu, Ma'em Shatsu. Des années ont passé, ceux qui ont passé, c'est-à-dire il aurait pu venir au début du cinquième millénaire. Alors, 172 années après le Korban. Le Chorban était quelle année chez le Goy? Si je vais transformer en année Goy. Le Chorban Tindash est à peu près l'année 68. Il y en a qui disent l'année 70. 68, disons 68. Alors, 70, 68 plus 172, ça fait combien? 68 plus 172, ça fait combien? 170, et alors, ça fait 240. Ça fait 240. L'année 240, c'est quel chacham était l'année 240? C'était Abaye Verava. C'était après Rav Shmuel. Abaye Verava était un peu plus tard. Non. 240, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan. Rav et Rabbi Yochanan étaient l'année 240. Rabbi, il était. Rabbi Akiva et Niftar, bon, l'histoire de. L'histoire de Bar Kokhba, 52 années après le Chorban, donc c'est l'année 132. À peu près, Rabbi Akiva Niftar, à peu près l'année 132. Et après, il y avait la génération de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, et la génération de Rabbi. Et Rabbi, il a vécu longtemps, mais pas jusqu'à 240. Il était déjà pas jusqu'à 240. 240, c'était, il me semble, la génération de Rav et Rabbi Yochanan. Il me semble. Alors, Ubavonotenu, mais à cause de nos péchés, Yatsu, même Mashiachu. Il y a déjà des années qui sont passées, Mashiach n'est pas venu. Il aurait pu venir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'années passées depuis ce moment-là, elles sont passées. Il va venir ou le cinquième millénaire ou le sixième millénaire. C'est l'époque Mesugal pour Mashiach. Alors, Amale Eliyahu le Rav Yehuda. Eliyahu, il a dit, qui c'est Eliyahu? Probablement, il y en a vie, probablement. Et il y en avait les des Rav Yehuda, Achve de Rav Sala, le frère de Rav Sala, Chassida, Rav Sala le pieux. En haolam pochot mishmonim v'chamisha yovlot. Le monde n'est pas moins que 85 jubilés. Ou biyovel acharon ben David va. Et dans le dernier jubilé, des fils de David vient. Alors 85 jubilés. Un jubilé, c'est quoi? C'est 50 ans. Il y a 85 fois 50. Ça fait combien? 85 fois 50, ça veut dire c'est l'année 4250. 4250. Alors l'année 4250 du Bibriat Olam, ça fait quoi chez les Goyim? Ça fait combien? Alors, on avait dit que quoi? Que le deuxième Beth Amigdash était détruite l'année 3828. Donc, il reste 172 ans jusqu'à terminer les 4000 ans. Maintenant, on dit 4250. Donc, il faut ajouter sur 200, ou non, pas 250, 225. 225, 85. On prend 85, on partage en deux. 85, ça fait 42 et demi. Oui, ça fait 4250. Ça fait 4250, c'est juste. 4250, ça fait 250 plus 172. 250, 350, 420. 422. Donc, dans le monde, l'année, ça fait à peu près l'année 422. Qu'est-ce qui s'est passé l'année 422? C'était que Rav Ashi, il a écrit le chasse. C'était l'époque de terminer le chasse, 422. Rav Ashi, il est niftar à peu près 420. 422, il est niftar. Après, Marba Rav Ashi, il a ajouté encore quelques petits passages. Après, le deuxième rabbinet, le neveu du premier rabbin, le deuxième rabbin, il a terminé la dernière touche. Le chat s'était fait 499, si je ne me trompe pas. Mais 99% du chasse, 99,9% du chasse était terminé avec la petite rabbin. Et ça, c'est les Icar. Ça, c'est les Icar. 99% du chasse était terminé. C'est l'année 420. Alors, ça, c'est le monde n'est pas. Le monde n'est pas. Moins que 85 Yovlot. Ou Yovel Acharon ben David ba. Et qui régnait à cette époque? Les Juifs, ils étaient en Babylonie, les Icar. À l'époque de Rav Ashi, il y avait très peu de Juifs en Eretz Israël. Les Icar étaient en Babylonie. Et les Juifs, ils étaient sous le gouvernement des Sassanides, les rois Sassanides, les rois Perses. On les appelait à l'époque les rois Sassanides. Et ils étaient des fois gentils, des fois ils étaient méchants, ça dépend. Il y avait un roi qui s'appelait Archir, c'est le copain de Rav, Archir. Yezgeret, des fois, il a massacré les Juifs, des fois. Ça, c'était le roi Yezgeret à cette époque, de Rav Ashi. Les Gaonim, ils parlent. Il y a dans la Gemara, souvent, les rois Sassanides, on parle Archir, Shapur dans la Gemara. Et Rav Ashi était aussi sous les Sassanides. Bon, Ubiyobel Acharon, Ben David ba. Et dans le dernier Yovel, le fils de David, il va venir. Le dernier Yovel, Amar Lei, ça veut dire quoi, il va venir? On ne sait pas, c'est une proposition. La Gemara ne veut pas dire, il va venir sûr. C'est-à-dire, c'est un bon moment qu'il veut venir. Le fil est calcul, c'est un bon moment, mais on ne sait pas. Daniel, il dit qu'on ne sait pas. Donc, Daniel dit, on ne sait pas, on ne sait pas. Ce sont des bonnes propositions. Amar Lei, Bitrilato Besofo. Alors, Rav Yehuda, Achmed Rav Sal, il a demandé un avis, c'est au début ou à la fin. Amar Lei dit, je ne sais pas. Même Elien Avi, il dit, je ne sais pas. Ça, on ne m'a pas dit. Alors, Kula Oeno Kala, ces dernières 50 ans, ils sont inclus ou ils sont exclus. C'est avant Monsieur, après Monsieur, Achmed Rav Sal, je ne sais pas. Rav Ashi Amar, Achmed Amar Lei. L'histoire n'était pas qu'à ce moment-là, il vient. Ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire autre chose. Jusqu'à cette époque, il ne faut même pas rêver que Mashiach vient. Avant ça, c'est sûr qu'il ne vient pas. Après, il peut venir. Donc, ça, c'est Ravashi qui dit ça. C'était l'époque de Ravashi. Donc, Ravashi dit jusqu'à notre époque, on n'avait pas quoi à espérer. À partir de maintenant, on peut espérer. Il a envoyé, Rafhanan, le fils de Tachlif, il a envoyé à Rav Yosef. J'ai trouvé un homme. Il avait dans sa main un parchemin. Ketuvah Ashurit. Elle était écrite en Ashurit Velashon HaKodesh. Ashurit, c'est l'écriture de Aleph Bet. Et la Shona Kodesh. Et je l'ai trouvé où? Ah, j'ai trouvé un monsieur qui avait une Megillah, un vieux parchemin. Amartilo, je dis à ce monsieur, Minay lecha, zu Minay lecha, d'où tu as ce parchemin? Amarli dit le chayalot shel Rebbe Niskarti. Moi, j'étais un mercenaire dans l'armée des Romains. Ou ben ginze Romi Metzatia. Et je l'ai trouvé dans le trésor de Rome. Donc, à Rome, dans les souterrains, il y a là-bas, je sais pas, au Vatican, d'autres endroits, à Rome, il y a vieux trésors. Et dans ce trésor, moi j'étais dedans, j'ai fouillé là-bas et j'ai trouvé le Katouba. Alors l'autre Mistam, il ne savait pas lire, mais il est venu chez le rabbin, un goy, il a trouvé un parchemin écrit en hébreu, il ne savait pas déchiffrer, il a trouvé le juif. Il dit, monsieur le juif, c'est cette écriture, il me semble, c'est du juif. C'est de l'hébreu, vous savez le dire. Bon, l'autre, il dit d'accord. Il a rejeté un coup d'œil. Mistam, il a donné 200 euros. Et il a acquis ce papier, ce parchemin. Le Katouba. Alors, qu'est-ce qui était marqué sur ce parchemin? La Hardalet Alafim, Umataim, Vetishim, Vechatchana, le Briat Shalom, Aolam Yatom. Après 4000 ans et 200, Vetishim, et 80, 10, Ve'echat 91 années, Levriat Olam, après la création du monde, Aolam Yatom. Le monde va être orphelin. Orphelin, ça veut dire il y aura un changement radical. L'année 4291, ici un petit Aleph. Les petits Aleph, le Gaon, il dit, le Gra, il dit pas Tishim, mais Shloshim. Il faut dire 4231. Alors, c'est quelle année? 4231. Ah, ça ressemble très fort à ce qu'on avait dit avant. Avant, on avait fait le calcul, 4250, on avait dit. 4250. Et lui aussi dit la même chose, 4231, la même chose. Alors, l'âme yatom, là, l'homme va être orphelin. C'est quoi cette expression de orphelin? Orphelin, ça veut dire c'est spécial, c'est une époque spéciale. Mehen milchamot. Il y aura des années qui vont avoir des guerres. Taninim, les guerres de Taninim, des grands dinosaures. C'est une façon de parler. Taninim, des grands poissons. C'est une façon de parler. C'est-à-dire des grands empires, des guerres mondiales. Des grands empires, ils vont se chamailler. Les Taninim. Taninim, des grands poissons. Pour tout ça, c'est un machal, bien sûr. Que quoi? Que les grands empires du monde, ils essayent de se battre. Et Mehen, Milchamot Gog ou Magog. Et une partie, ce sera des guerres de Gog ou Magog. Vachar, et après que toutes ces guerres sont terminées, les guerres de Gog sont terminées, Vachar Yemot HaMashiach. Et après, c'est l'époque de Mashiach. Mais l'époque de Mashiach va être encore un homme normal, comme chez nous aujourd'hui. Mais Akadosh Baruch Hu ne va pas renouveler le monde qu'après 7000 ans. Donc, d'après ce mandat Amar, le septième millénaire, c'est encore une année normale. On va travailler moins, mais ça se passe toujours normalement avec un corps, avec les voitures, avec des habits, des lunettes. Et c'est encore un monde comme nous la connaissons. Et après ce 1000 ans de Mashiach-là, il y aura un renouvellement. Il y aura un renouvellement, il y aura une transformation, le monde va se transformer en un monde éternel, etc. Alors, il parle ici des guerres de Taninim. Donc, ça a commencé quoi? L'année? Donc, selon le calcul que nous avons fait, vers l'année 430, il y aura des grands bouleversements. Nechemet Taninim. Des guerres. Quelle guerre était à l'époque? Il y avait les guerres, les Byzantins. Entre les Sassanides, il y avait des grandes guerres. Bon, il y avait des guerres entre les Romains et les Byzantins, entre les Byzantins et les Sassanides. Et après sont venus les Arabes, ça c'est 2 siècles après. En l'année 630, sont venus les Arabes, ils ont envahi, ils ont massacré l'Empire perse. Et eux, ils ont conquis après l'Égypte et le Proche-Orient, juste l'Afrique du Nord, jusqu'en Espagne, jusqu'un peu en France. Et bouleversement sur bouleversement. Et en haut aussi, les Huns sont venus. L'année 430, c'était les Visigoths et les Ostrogoths sont venus. Eux, ils ont envahi le Proche-Orient aussi. Ils sont venus du nord pour en conquérir le sud. Il y avait des grosses guerres, mais les guerres, tout le temps, il y avait des grosses guerres. Ces guerres s'appellent Milchamot Taninim. Les guerres des Taninim. Taninim Hagedolim, les grands Taninim. Les monstres marins, les grands taninim. C'est des grands poissons, des grands rois avec beaucoup de militaires. Alors, Rav Acha, Rav, il a dit, ce n'est pas après 7000 ans, mais c'est après 5000 ans. Rav Acha, ce renouvellement, ce sera après 5000 ans, c'est-à-dire au début du 6e millénaire. Il y aura des immenses transformations, comme ça lui souhaitait, comme ça lui le calculait. Mais là, si on va, ça n'était pas comme ça. Bon, prochain, demain, c'est quoi? C'est jeudi, Bezrat Hashem, à 5 heures.